nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
On ne saurait pleinement se satisfaire de l'organisation sociale existante. La civilisation est décevante. L'utopie de Fourier commence par ce refus d'un monde où l'homme n'est pas ce qu'il pourrait être. Elle part d'une insatisfaction, d'une aspiration vers autre chose. Nous sommes là d'emblée confrontés au désir. Mais chez Fourier, ce concept est repensé. Alors qu'il fut critiqué par l'ensemble de la philosophie classique, le désir devient avec lui une valeur qui doit transformer l'ensemble de la société, écrit la philosophe Simone de Boux, qui a établi l'œuvre complète de Charles Fourier pour les Presses du Réel. Parce que le socialiste utopiste Charles Fourier était né à Besançon en avril 1772 et qu'il mourut à Paris en octobre 1837, Jean Montalbetti eut en 1980 la belle idée dans son émission « Un homme, une ville » de parcourir chacune des villes en 3 émissions. Vous avez pu suivre hier un premier volet, Charles Fourier à Besançon. Nous le retrouvons ce soir à Paris où Fourier s'installa en 1826. Et toi, rien ne te fait détourner les yeux des bouts diamantifères de la place Clichy. Fourier, es-tu toujours là ? Demande André Breton dans son ode à Charles Fourier. Oui, Fourier est toujours là. Il est inhumé dans le cimetière de Montmartre et une rue porte son nom dans le 13e arrondissement. Jean Montalbetti explore le Paris de Fourier en compagnie de celles et ceux qui connaissent le mieux le parcours et la pensée du merveilleux philosophe qui pensait que la vie devait être une heureuse liberté. Mais pourquoi cette idée serait-elle utopique ?
Un homme, une ville, Charles Fourier à Paris avec Dominique de Santi par Jean Montalbetti. Deuxième émission, la révolution de l'attraction personnelle. Réalisation André Mathieu et Daniel Fontanarosa. Lorsque Charles Fourier vient pour la première fois à Paris, c'est en 1790, en pleine Révolution. Il a été envoyé en apprentissage à Rouen et il fait le voyage avec 2 hommes qui sont eux déjà engagés dans la Révolution. Brillat Savarin, qui a été élu député aux États généraux mais qui n'a pas encore écrit sa physiologie du goût. Et puis le maire de Belley, Antide de Ruba, qui va devenir lui député à l'Assemblée législative. Le premier contact de Fourier avec le Paris révolutionnaire de 1790, c'est en entrant au Palais Royal dont il écrit à sa mère « La première fois qu'on le voit, on croit entrer dans un palais de fées ». C'est là que nous pénétrons, en compagnie de Dominique de Santi, pour y accomplir notre premier itinéraire Fourier à Paris, itinéraire qui nous conduira des galeries du Palais Royal à la corbeille du Palais de la Bourse, puisque Charles Fourier évoluera dans ces rues du centre de Paris jusqu'à 1832, et y tiendra les bureaux de sa revue Le Phalanstère, répandant dans le premier cercle de ses disciples de l'école sociétaire son propre projet révolutionnaire, une révolution fondée sur l'attraction personnelle. C'est en novembre 1822 que Fourier s'installera définitivement à Paris pour y vendre son essai imprimé à Besançon, traité de l'association domestique agricole, traité qui sera réédité en 1834 sous le titre « Théorie de l'unité universelle », qui va constituer désormais la Bible des socialistes utopiques pour le passage des méfaits de la civilisation à la société d'harmonie. Monsieur de Santi, nous venons de rentrer dans le Palais Royal et nous sommes en ce moment sous l'une des galeries, la galerie Montpensier.
C'est un lieu hautement révolutionnaire. Alors aujourd'hui, il n'y a que des galeries de tableaux, il y a des antiquaires, il y a des marchands de décorations. Ça, ça touche déjà davantage à la période post-révolutionnaire.
Mais c'est pas exactement le Palais Royal qu'a découvert Fourier lors de son premier voyage à Paris en 1790.
Oui, il était avec son beau-frère, il avait 18 ans. Et c'était la pleine insurrection et le Palais Royal était le cœur même où se passaient les choses, où venait la foule pour écouter les orateurs, un peu comme dans Hyde Park à Londres aujourd'hui. Les orateurs se mettaient sur une chaise, la belle Lucille Desmoulins montait sur une chaise, son mari arrachait une feuille de marronnier, en faisait un emblème, et il haranguait la foule. D'autres répondaient. Et tout le long des galeries, il y avait des éditeurs, des libraires, des marchands de vieilles nippes, mais aussi de vieux livres, de manuscrits.
Ils sont toujours là.
Ils sont toujours là, mais en très petit nombre.
Des antiquaires, des marchands de décoration, des marchands de timbres.
Il y avait des... Oui, alors ça, je ne sais pas s'il y avait des antiquaires. Ça, je ne le pense pas. Mais il y avait certainement des marchands de tout, y compris des dames qui vendaient le plaisir. Et alors là, je ne jurerais pas...
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais ce qui a été le cas pendant une grande partie du XIXe siècle. On disait, c'est une fille du Palais Royal. Et je ne jurerais pas que le jeune Fourier, qui aimait, comme nous le savons, le contact des dames dites tarifé, ne se soit pas éloigné discrètement avec quelques dames du Palais Royal. Et c'est assez curieux de penser qu'au moment que nous pensons héroïque et spécialement attirant de l'histoire de Paris et de la France, des contemporains, des gens venus de province et qui étaient en contact avec cette réalité l'appréciaient tout à fait différemment, c'est-à-dire comme un grand désordre et comme une grande insécurité, parce que certainement dans le milieu de commerçants que fréquentait Fourier, étant donné que son beau-frère était dans le commerce, dans ce milieu on devait être extrêmement inquiet tous les jours parce que constamment les divers comités décidaient que tel commerçant avait renchéri indûment ses denrées et ça pouvait aller jusqu'à l'emprisonnement et jusqu'à la guillotine. Alors il vivait dans une atmosphère de totale insécurité et d'horreur de cette insécurité. C'était le contraire d'harmonie, c'était vraiment la civilisation empreinte de barbarie. Il n'avait pas encore formulé toute cette théorie, bien sûr.
Mais les inconvénients de la Révolution et surtout évidemment de la période de la Terreur, il les a vécus plus tard à Besançon et à Lyon.
À Lyon surtout, il a été emprisonné.
Mais à Paris, quand il vient en 1790, c'est un tout jeune homme, il a 18 ans, il n'est tout de même pas enthousiasmé par ce qu'il voit là, ici.
Écoutez, il ne semble pas, puisqu'ensuite, il porte un jugement, comme nous dirions aujourd'hui, globalement négatif sur la Révolution, ce qui est très curieux. Mais cependant, ce qui lui est resté, c'est qu'on pouvait changer l'ordre social. Parce que pour la première fois, un soulèvement changeait l'ordre social.
Il y a tout de même un aspect curieux avec Fourier, c'est qu'il est pratiquement le contemporain de Bonaparte. Il est typiquement de la génération de la Révolution, puisqu'il a 17 ans en 1789, au moment où il commence. Et finalement, on a l'impression qu'il n'est pas pris dans le mouvement, qu'il reste un petit peu un marginal. Alors, est-ce à cause, au fond, de ses attaches avec une petite bourgeoisie provinciale, milieu typiquement commerçant, qui souffre au départ de cette révolution.
Oui, mais alors ça, c'est toute l'ambiguïté de cette révolution qui a mis la bourgeoisie au pouvoir et qui en avait d'ailleurs le ferme propos, mais qui a été aussi une révolution populaire, c'est-à-dire que les gens simples et pauvres ont pensé que leur temps était arrivé. Et les gens simples et pauvres avaient certes la haine des grands seigneurs, mais ils n'étaient pas tellement en contact avec l'aristocratie. Ils étaient surtout en contact avec ceux qui avaient immédiatement plus d'argent qu'eux, c'est-à-dire les boutiquiers, lesquels ont évidemment renchéri les denrées parce qu'elles devenaient plus rares et que les transports étaient difficiles.
Lui-même
et,
a essayé de spéculer et, un petit peu.
Oui, ça lui a coûté très cher à Lyon.
Avec le début de son héritage.
Avec le début de son héritage, il a acheté des balles de riz, de coton, de mille denrées qui ensuite ont été réquisitionnées parce que Lyon s'insurgeant, il fallait défendre. Les balles de coton ont servi de sorte de barricade. Le riz a été réquisitionné pour nourrir les gens. Il a tout perdu et il a fini emprisonné. Par conséquent, là, à Lyon, plus tard, on comprend très bien qu'il ait été charnellement contre la Révolution. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'ait pas été attiré par ce grand mouvement, mais je pense qu'il a conçu l'horreur de la violence et de l'insécurité. Parce que, justement, il était avec ses petits commerçants qui, brusquement, se sentaient menacés, qui ne savaient pas encore que c'était leur révolution dont ils allaient profiter pour un enrichissement très extraordinaire. Mais alors, ce que je crois, c'est que l'idée que l'on peut changer la nature du régime, du pouvoir, du gouvernement est née à ce moment-là quand même chez Fourier, parce que il voyait qu'on ne voulait plus de l'ordre ancien. Il voyait que les privilèges étaient abolis.
C'est le premier moment historique où l'utopie a été possible.
Ah, c'est un moment de grande utopie. D'où d'ailleurs l'ambiguïté, parce que le peuple, lui, vivait l'utopie d'une révolution populaire. C'est ça. Et si vous voulez, le peuple vivait l'idée d'un bref moment de violence qui renverserait toutes les barrières et qui ensuite instaurerait l'ère de la justice. Or, l'ère de la justice, c'était aussi l'idée de Fourier. Et très certainement, à travers cette horreur qu'il a conçue de la Révolution et de ses protagonistes d'ailleurs, et de la terreur naturellement et de la guillotine, à travers tout cela a subsisté en lui la certitude qu'on n'avait pas besoin de se résigner, qu'on pouvait changer. Mais lui, il voulait changer en instaurant l'harmonie sans violence. Encore que, vous savez qu'il y a eu un moment où, dans un instant de colère, sans doute, il a dit et écrit qu'on n'arrivera jamais à forcer les gens pacifiquement à choisir l'harmonie et qu'il faudra bien alors les obliger à faire ce saut. Ce n'est qu'un moment, parce que après, au contraire, il est devenu tout à fait évolutionniste, et il a imaginé deux étapes, le garantisme et le sociétisme.
Est-ce que ce n'était pas aussi l'influence du régime bonapartiste et napoléonien? C'est-à-dire, il a espéré, il a eu des rapports ambigus à l'égard de Napoléon, et il a espéré à un moment que Napoléon serait justement le réformateur qui introduirait la société selon Fourier.
Bien sûr, parce que Napoléon a remis de l'ordre dans la violence révolutionnaire. Alors, Fourier se dit, voyons, maintenant, un régime est balayé. Voilà un homme qui remet de l'ordre. Par conséquent, c'est grâce à lui qu'on peut passer de civilisation en harmonie, parce qu'il en a le pouvoir. Il peut instituer l'harmonie, il peut décider des phalanstères.
Déjà le nouvel Hercule apparut. Ses immenses travaux font retentir son nom de l'un à l'autre pôle de l'humanité. Accoutumé par lui au spectacle des faits miraculeux, attend de lui quelque prodige qui changera le sort du monde. Peuple, vos pressentiments vont se réaliser. La plus éclatante mission est réservée au plus grand des héros. C'est lui qui doit élever l'harmonie universelle sur les ruines de la barbarie et de la civilisation. Charles Fourier.
Il lui a fait adresser une lettre à l'époque où il était premier consul.
Oui, auquel le premier consul, je dois dire, n'a pas répondu.
Alors, mais est-ce qu'elle lui est même parvenue?
Oh, probablement pas. Ça a dû s'arrêter au premier bureau.
Et la police, je crois, l'a bloqué.
Oh, oui. Écoutez, ça a dû être classé dans les lettres de fous. Vous savez bien. Et alors, le pauvre Fourier a toujours dû se dire que s'il avait pu parler en tête-à-tête avec Bonaparte, le premier consul, il aurait pu le convaincre de la nécessité d'instaurer le régime d'harmonie. Car il ne s'occupait pas de politique. Et ça, je dois dire qu'il en a conçu l'horreur, justement, dans cette période révolutionnaire. Et il se disait que peu importe le régime, un empereur, bon... un roi, oui, la République, pourquoi pas. Ce qui importe, c'est de passer de civilisation, cette horreur, en harmonie. Et par conséquent, d'établir les phalanstères, d'établir des manufactures modérées à la campagne, d'en finir avec les grandes villes. Ce qui est très curieux, c'est que du début des années 20, jusqu'à sa mort en 1837, Fourier, le contenteur des villes, le destructeur des villes, a vécu à Paris.
Nous avons atteint un axe d'assez grande circulation dans Paris, c'est celui de la rue de Richelieu. Nous sommes en ce moment dans le square Louvois, qui est en bordure de la rue de Richelieu, parce que l'hôtel de l'Hollande, où Fourier a habité finalement assez longtemps, à deux reprises, entre 1825 et 1828, puis de 1829 à 1832, au cinquième étage, l'hôtel de Hollande n'existe plus. À quel niveau exactement se trouvait-il ?
Eh bien, il était numéroté 45, mais comme il y a eu une dénumérotation, on ne sait pas à quelques numéros près, il était aux environs, enfin pas loin de la maison de Diderot, celle qui fait face à la fontaine Molière et qui porte une plaque. Il était, si vous voulez, entre la maison où a vécu Diderot et la maison numérotée maintenant 69 rue de Richelieu, où le cher Stendhal a écrit « Promenade dans Rome » et « Le rouge et le noir ». Alors, ce qui est curieux, c'est que ces deux hommes étaient contemporains. Stendhal est mort en 42 et il était grenoblois de naissance. Fourier, comme on sait, vivait à Paris jusqu'à sa mort. Et ils ont donc coïncidé dans la ville et peut-être dans la rue à un moment donné.
Et au fond, c'est ici... rue de Richelieu, que Fourier a vécu le plus longtemps.
Oui, et parce que c'était très central, et puis peut-être aussi, je ne sais pas, là c'est une hypothèse hasardeuse, pour une autre raison. C'est que le foyer des Saint-Simoniens, Saint-Simon lui-même, est mort en 1825. Mais le plus théâtral de ses disciples, Prosper Enfantin, a fondé une sorte de phalanstère, pour prendre un terme fourriériste, c'est-à-dire une communauté, rue Monsigny, c'est-à-dire tout près. Et là, les Saint-Simoniens donnaient des soirées, des bals, des repas fraternels, très frugaux d'ailleurs, où venait, où il était élégant de venir pour toute l'intellectualité, ce que nous appellerions aujourd'hui l'intelligentsia de gauche. Et alors, il y avait Georges Sand, il y avait Liszt, il y avait Eugène Sue, il y avait Madame de Girardin, on ne sait pas si Girardin lui-même est venu. Enfin, il y avait vraiment les grands noms de la littérature et de l'art qui venaient et qui se mêlaient aux Saint-Simoniens et qui écoutaient ses doctrines. D'ailleurs, Stendhal, vous savez qu'il était très influencé par des études de Tracy, qui était un autre utopiste. Donc, il y avait un courant d'utopie, je dirais, dans le quartier. Et peut-être que Fourier, qui était complètement en dehors du coup, le pauvre, qui était très isolé, peut-être qu'il espérait que ses idées commenceraient à rayonner sur ces gens-là qui étaient effectivement ceux que leurs recherches prédisposaient à recevoir son enseignement. Il remarquait qu'un peu plus tard, il avait quitté l'hôtel de Hollande, mais un peu plus tard, Jules Le Chevalier et Abel Transon sont passés du saint-simonisme au fourriérisme, ainsi que deux jeunes ouvrières féministes qui sont passées également au fourriérisme et qui, elles, avaient de bonnes raisons pour cela, parce que les saint-simoniens parlaient beaucoup du culte de la femme. Vous savez, moi, je me méfie toujours beaucoup dès qu'on parle du culte de la femme, c'est très mauvais pour les femmes, parce que le culte, c'est une façon de tenir l'autre à distance. Et il parlait beaucoup du culte de la femme, mais en réalité, c'était le père suprême Prosper Enfantin qui choisissait et qui disait qu'un jour lui apparaîtrait la mère suprême, de préférence venue d'Orient, mais en fait, la mère suprême ne lui est jamais apparue. Et il a toujours laissé espérer à chacune des saint-simoniennes en particulier que peut-être elle deviendrait la mère suprême. La légende raconte même qu'il l'a proposée à George Sand, mais rien n'est moins sûr. En tout cas, les femmes ont senti que le fourriérisme, que la doctrine encore peu connue de cet homme solitaire, leur offrait une possibilité d'égalité, une possibilité d'épanouissement et de réalisation, non pas seulement sur le plan du désir, où c'était explicitement stipulé par Fourier, mais aussi sur le plan de la personnalité. Vous savez que Fourier a écrit...
Sur le plan social, parce
et
que...
Et sur le plan social.
Il était, enfin, pour une certaine promotion de la femme, dans des professions comme la magistrature, l'éducation...
Oui, mais en principe, les saint-simoniens aussi. C'est là que commence l'ambiguïté. C'est que, en principe, les saint-simoniens stipulaient l'égalité, mais qu'en fait, ils ne la pratiquaient pas. Alors, on ne sait pas du tout comment les fourriéristes l'auraient pratiqué, mais puisque leur phalanstère n'existait pas. Mais au moins, on pouvait espérer. Et Fourier avait dit, le sexe fort a toujours opprimé les deux autres, les femmes et les enfants. Il considérait donc les enfants comme un sexe à part. C'est assez curieux. Et c'est ici, dans les environs de la rue de Richelieu, rue Monsigny, que s'imprimait le journal des Saint-Simoniens et qu'apparut cet article qui stipulait que la monogamie n'était pas meilleure que la polygamie et qu'on ne voyait pas pourquoi un frère saint-simonien dont un autre frère saint-simonien convoiterait la femme ne l'autoriserait pas à devenir son compagnon. Ce qui est curieux, c'est que ça se passe entre hommes. On ajoute, si elle est consentante toutefois. Mais enfin, on ne parle pas de saint-simonienne choisissant un autre saint-simonien avec l'autorisation d'une autre saint-simonienne. Ce qui s'est d'ailleurs produit pour Suzanne Voilquin notamment. Mais enfin, l'article ne stipulait pas cela. Mais l'article a fait un tel bruit que Prosper Enfantin, qui entre-temps avait d'ailleurs déménagé à Ménilmontant, a été traduit en justice pour attentat à la morale publique et aux bonnes mœurs et condamné à un an de prison, qu'il a fait effectivement. Et
c'est ce qui a rapproché Fourier des saint-simoniens ?
Oui, exactement, parce qu'à ce moment-là, certains saint-simoniens, et pas parmi les moindres, justement, le chevalier Abel Transon, des polytechniciens, quelques financiers, théoriciens financiers, se sont dépris du saint-simonisme en se disant « Ah, ce n'est que cela !» et se sont rapprochés de Fourier,
dont
Fourier considérant faisait une propagande extrêmement ardente, surtout parmi les polytechniciens, puisque c'était ses anciens camarades.
Au fond, ce que Fourier reprochait surtout aux saint-simoniens, c'était d'être des gens parfaitement intégrés à cette société et de vouloir, sous couvert d'un nouveau système, au fond, arriver aux places.
Il reprochait aux saint-simoniens de respecter l'ordre social, la hiérarchie sociale, parce que lui, il respectait la propriété, Fourier. Il admettait que le capital au phalanstère aurait certaines parts du produit. Mais enfin, c'était le travail d'abord, le talent ensuite, et le capital en dernier. Et surtout, étant donné que chacun faisait de deux heures en deux heures, ça donnait à une activité différente, il n'y avait pas de hiérarchie. tandis qu'il est certain que chez les Saint-Simoniens, la hiérarchie fondée sur le mérite subsistait, c'était une méritocratie. Et chez Fourier, c'était une subversion infiniment plus radicale. Il n'y avait plus de méritocratie, tout le monde faisait tout, un peu de tout. Et chacun s'adonnait selon son goût de préférence à ce qu'il avait choisi. Mais ce n'était pas particulièrement valorisé, en ce sens que les boueurs avaient droit à la même considération sociale et probablement à plus de reconnaissance sociale, puisque son travail était pénible, mais utile, indispensable, que l'artiste qui trouvait de la joie dans son travail même. Donc c'était un autre principe. Et c'est pourquoi, pour Fourier, le saint-simonisme était un égarement, une façon de tromper les gens, de leur dire qu'on subvertissait, qu'on bouleversait la société en simplement en l'aménageant.
J'entrais rue Richelieu, numéro 45 bis. Je montais 5 étages. C'était peu pour moi, mais c'est bien haut pour le vieillard. Monsieur Fourier était assis devant sa cheminée, en cravate blanche, en petite redingote bleue. Sa mise est celle de l'homme qui a peu de soucis de ce que prescrit la mode, mais qui a cependant une ouvrière pour blanchir son linge et un domestique pour brosser ses habits. La figure de Monsieur Fourier est belle et intéressante. Des cheveux d'un blanc d'argent tombent sur son front et l'encadrent sans le voiler. Ses grands yeux bleus possèdent une vivacité et une expression de regard comme j'en ai peu vu. Le caractère distinct de sa physionomie est celui de la méditation. Xavier Marmier, 1832.
Dans le bâtiment de la bourse absolument vide, et c'est assez extraordinaire de le voir dans ces conditions, de voir cette salle éclairée par la verrière avec des tableaux absolument vierges, le tableau lumineux, l'ouverture 0%, séance 0%, liquidation 0%, indice 0. Donc tous les tableaux sont encore vierges, nous approchons là de la corbeille et il n'y a absolument personne dans cette immense
salle.
Mais
mon cher Montalbetti, c'est ce que Fourier aurait rêvé, parce qu'enfin Charles Fourier, voulant supprimer l'argent, voulait supprimer la bourse derrière laquelle il habitait, dans une petite rue qui a disparu depuis, il a habité là assez longtemps.
5 rue Joclet.
Alors nous voilà donc dans la bourse, cette bourse qui était le lieu même de l'abomination de Fourier, le lieu de l'argent, le lieu officiel où se faisaient les transactions de cet argent que symboliquement il voulait abolir, parce que dans les phalanstères il n'y aurait plus d'argent. Il y aurait à chacun selon ses, non pas seulement selon ses besoins, mais à chacun selon ses désirs. Et par conséquent, il n'y aurait pas d'intermédiaire entre le désir de l'un et le désir de l'autre.
Mais son hostilité à l'égard de l'argent, est-ce qu'elle vient du fait de ses premiers déboires lorsqu'il a touché sa première part d'héritage ?
Fourier, chaque fois qu'il a voulu toucher à l'argent, et on ne peut pas dire que, en ayant horreur de lui, comme nous dirions maintenant sur le plan du symbolique, il n'en avait pas une telle horreur sur le plan de la vie, le plan existentiel, car il essayait de se servir de l'argent. Mais chaque fois, l'argent lui échappait, comme par un fait exprès, ce qui ne l'empêche pas d'avoir passé toute sa vie active à faire de l'argent pour les autres. Puisqu'il a été commis voyageur, puisqu'il s'est occupé des écritures et expéditions d'une maison américaine à Paris.
dire l'argent dans le fond qui fait marcher.
Et les entreprises, si ce n'est pas des particuliers, vous n'aurez nullement l'argent ailleurs pour les faire tourner, augmenter un capital, voire l'extension.
Dominique de Santi, nous approchons de l'heure de l'ouverture. Vers midi et demi, ce sera l'ouverture de la séance. Évidemment, cette grande salle de la Bourse va être dans une atmosphère complètement différente, surchauffée, avec beaucoup de monde. On est en train d'écrire les premières cotes des valeurs françaises à l'ouverture, ici sur ce tableau. Mais alors, cette rue Joclet où habitait Fourier a été également le siège du phalanstère.
Oui, c'était les bureaux du phalanstère et par exemple Abel Transon, le transfuge du Saint-Simonisme, y travaillait à l'établissement d'un phalanstère, celui de Condé-sur-Vègre, qui finalement n'a jamais marché. Et tout près, rue Vivienne, il y avait les bureaux du premier journal de Marx.
Mais il n'y a pas eu. Ce quartier de la Bourse était aussi le quartier de la presse. Il est toujours.
Mais naturellement, il y avait la presse d'Émile de Girardin, tout près, rue Montmartre. Et par conséquent, c'était un quartier où l'argent et les nouvelles s'associaient, ce qui est assez normal d'ailleurs. Et pour Fourier, ça devait être assez curieux, parce que à la fois c'était une atmosphère excitante, et en même temps, il essayait d'élaborer un monde où cette atmosphère deviendrait impossible.
Mais au fond, pour cet employé de commerce, le journalisme a été aussi une façon de faire passer ses idées, d'abord au niveau d'articles qu'il publiait.
Mais il en avait besoin. Mais oui, mais c'est-à-dire, c'est l'éternelle contradiction entre le doctrinaire qui voudrait ne s'exprimer qu'au plus haut niveau par des ouvrages très savants et accessibles à quelques-uns seulement, et le prophète qui voudrait toucher tout le monde. Or, on ne touche tout le monde que si on a un véhicule commode, c'est-à-dire un journal. Et alors, les articles de journaux deviennent indispensables pour exposer, en la résumant, donc en la mutilant, la doctrine. Et il a publié des articles, les Fourieristes Victor Considérant a eu un journal au titre variable, Démocratie Pacifique, etc. Et ils ont tous eu des journaux où ils exprimaient leurs idées, et en même temps, ils condamnaient tous cette activité du journalisme qui leur paraissait dérisoire. Alors, un homme comme Émile de Girardin triomphait, évidemment, parce que lui avait un journal explicitement commercial, il avait complètement changé la presse en faisant entrer la réclame, la publicité, dans le quotidien, et ce qui lui a permis, du jour au lendemain, de casser en deux le prix du quotidien, c'est-à-dire de le rendre accessible à des gens qui ne pouvaient pas l'acheter. Alors lui, il trouvait que tous ces doctrinaires étaient bien ridicules, parce qu'en réalité, ils étaient tous extrêmement contents quand on parlait d'eux, fût-ce pour en dire du mal.
Quel a été le jugement de Marx sur ce socialiste utopique qui était Fourier ?
Ah bien, alors écoutez, le jugement de Marx est très complexe. De temps en temps, il dit « ce bizarre génie ». Ça, c'est l'expression. D'Engels d'ailleurs, je crois. Et puis d'autres fois, il dit quelle profonde critique de la misère morale et matérielle de la bourgeoisie. Et puis d'autres fois, il montre qu'il est lui le premier socialiste scientifique et que par conséquent, tous les autres, c'était des rêveurs, c'est-à-dire des utopistes. Et ça, cette étiquette d'utopiste qu'il a collée aussi bien sur les Saint-Simoniens que sur les Fourieristes que sur les Oénites, que sur Flora Tristan d'ailleurs, ils ne s'en sont plus remis les autres, puisqu'ils n'étaient pas scientifiques en un siècle où la science, c'était tout. La religion devait être remplacée par la science, tout devait être remplacé par la science. Donc un socialisme scientifique, c'était un progrès immense. C'était le progrès de la civilisation. Cette civilisation que Marx niait beaucoup moins que Fourier, puisque Marx admettait que le travail, les instruments du travail appartenaient à la communauté, au prolétariat, au pouvoir. Mais le travail devait se poursuivre, tandis que Fourier, non. Finalement, Fourier envers le travail, comme envers l'argent, était beaucoup plus subversif, au moins théoriquement, que Marx. Parce qu'il n'instituait pas du tout une classe qui prendrait le pouvoir au détriment des autres classes. Ce n'était pas ça son idée. C'était la répartition entre tous de toutes les activités d'une société. Et également, l'autorité n'était que déléguée. Elle n'était pas prise de naissance par le prolétariat en tant que prolétariat. L'autorité était déléguée et uniquement pour faire régner l'harmonie. Mais ce ne devait pas être toujours les mêmes, ni toujours les mêmes pour tous, puisque c'était totalement décentralisé, comme nous dirions aujourd'hui.
Dominique de Santi, nous sommes venus aux Archives nationales pour avoir enfin un contact avec les manuscrits de Fourier. Et nous sommes venus avec la spécialiste de Fourier, Simone Debout, qui a édité aux éditions Anthropos Le Nouveau Monde Amoureux et Griffonné.
Oui, elle a même édité l'œuvre complète de Charles Fourier, dont Le Nouveau Monde Amoureux, qui n'avait jamais été édité et qui donc est venu à notre connaissance en 1967.
Et découverte qui a été faite d'une certaine façon ici. Dans des manuscrits qui sont conservés ici.
Et alors je trouve absolument fascinant qu'elle ait découvert un manuscrit de cette importance et que Victor Considérant en tête, les disciples de Fourier, avaient voulu dissimuler parce qu'il était trop explosif. Alors je voudrais que nous posions la question à Simone Debout.
Nous avons justement devant les yeux une partie du manuscrit du Nouveau Monde Amoureux, sur lequel vous avez travaillé. Mais peut-être pourrait-on demander à Madame Brault quelle est l'importance du fonds Fourier ici aux Archives nationales.
Le fonds Fourier est constitué par 42 cartons, dont la moitié, seulement concerne Fourier. Un peu plus de la moitié, puisque le reste est attribué à Victor Considérant. Les archives sont entrées aux Archives nationales en 1949. Il s'agit d'un don de Madame Bouglé. Et auparavant, ces archives avaient été déposées au centre de documentation sociale de la bibliothèque de l'École normale supérieure, qui avait été fondée par M. Bouglé. Elles avaient été données par M. Klein, ancien directeur de l'École des Ponts et Chaussées, qui était exécuteur testamentaire de Victor Considérant. C'est donc par l'intermédiaire de Victor Considérant que nous détenons aux Archives nationales le fonds Fourier et Considérant de l'École sociétaire.
Simone Debout, est-ce qu'on a là, ici aux Archives nationales, l'ensemble du fonds Fourier ou est-ce qu'il y en a également, je ne sais pas, à Besançon et à Lyon?
Je crois qu'on a l'ensemble, sauf les lettres à Muron. Je crois que tout est là, par une série de hasards d'ailleurs, parce que ce fonds entier avait été mis sous scellé à la mort de Fourier, parce qu'il y avait des dissensions entre ses disciples et parce que tout ce qu'il y avait de matériel dans sa succession était donné à ses parents. Donc on a mis tout sous scellé et on a inventorié le tout, ce qui donnait la nécessité en effet de le transmettre. Et puis ensuite...
Alors ces manuscrits sur lesquels vous avez, vous, travaillé, n'avaient pas été auparavant entièrement édités. Pourquoi ?
Ils n'avaient pas été édités du tout, ce qui est tout à fait extraordinaire, parce qu'il y avait eu quelques phrases expurgées qui avaient paru dans la phalange. Alors ça, c'est en effet étonnant, parce que Victor Considérant, pendant des années, avec ses disciples a publié dans la phalange des monceaux de manuscrits avec des redites sans ordre, sans méthode. Et Bourgeun, quand il s'en était occupé, avait dit bon, ça a été fait sans ordre ni méthode, sans aucune critique, du tout aucune méthode critique. Et cependant, il avait dit il n'y a là-dedans que des répétitions. Autrement dit, il avait eu en main ces manuscrits lui aussi, il n'en avait rien tiré. Or, il n'y a pas que des répétitions, justement. C'est au contraire quelque chose qui avait été préparé par Fourier pour un grand traité qu'il n'a jamais écrit. Et s'il ne l'a pas publié lui-même, c'est donc d'une part parce qu'il n'est pas arrivé au bout de la construction de sa théorie, et aussi parce qu'il était très freiné par ses disciples. C'est là-dedans qu'il y a les choses les plus révolutionnaires, on peut dire, par rapport à sa propre théorie. Il y avait la dissension...
Vous en jetez un coup d'œil à ce manuscrit là, du Nouveau Monde Amoureux?
Alors, c'est... tout à fait en désordre.
C'est un manuscrit d'ailleurs qui est beaucoup raturé.
Très raturé, c'est un manuscrit de premier jet qui n'a jamais été repris, donc il est raturé partout et c'est celui-là justement qui est mangé par les souris.
Oui, en effet, tous les coins sont
grignotés. Voilà. Alors il y a des mots qui ont sauté bien sûr et même des phrases, mais ce n'est pas très important pour l'ensemble et en tout cas ce n'est certainement pas volontaire. Les souris étaient de pur hasard et elles ne se sont pas attaquées trop gravement.
Comment se fait-il que ces textes aient été oubliés ou occultés?
Alors là, ils ont été oubliés, occultés par Fourier lui-même, parce qu'il n'a pas eu le temps de finir et parce qu'il n'a plus osé publier tout ce qu'il avait écrit de premier jet et où il poursuivait sa recherche jusqu'aux limites extrêmes. Et sous des influences diverses, il a toujours subi des influences qu'il a cachées et que ses disciples même n'ont pas tout à fait reconnues et qui faisaient d'ailleurs une différence entre lui et ses disciples parce que ces influences, ils avaient été les chercher très lointains dans le temps. C'était par exemple Kepler ou Louis-Claude de Saint-Martin. Ça a été plus tard, au moment de ses cahiers, ça a été Sade. Et pourquoi il a rencontré Sade? Parce que certainement il s'intéressait à tout ce qui publiait sous le manteau et qui circulait au Palais Royal ou ailleurs, mais aussi parce qu'il était sur le même terrain, c'est-à-dire le terrain de ce qu'il appelle les manies, les perversions, les particularités sexuelles qui l'intéressaient au premier chef parce qu'il était lui-même un maniaque. Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est naturellement que c'était relativement nouveau de faire une sorte d'énumération qui ne soit pas sadienne des manies à ce moment-là, mais c'est surtout parce qu'il en tire, lui, alors qu'il avait construit une grande théorie et un système de similitudes et d'analogies qui reprenait des pensées de Kepler qu'il avait fait sienne, car cet homme qui n'avait pas de bibliothèque a conservé toute sa vie très précieusement Harmonis Est Mundi, et qu'il lisait en latin parce que c'était une des choses qu'il savait et qu'il avait appris au lycée. Et s'il l'a conservé et porté dans tous ses voyages nomades, c'est que c'est, évidemment c'était pour lui un livre important. Et il a repris, sans se préoccuper de l'évolution des sciences, le panpsychisme de Kepler, d'autant plus incliné à ce choix qu'à Lyon, il avait connu des maçons, et par des maçons, dans l'imprimerie de Ballanche qu'il avait fréquenté, on ne sait pas exactement de quelle manière, mais assez estimé au moment, comme géographe et comme connaisseur de diverses choses.
Et Ballanche était maçon.
Et Ballanche recevait beaucoup de maçons. Alors là, il en avait connu, et par eux, Louis-Claude de Saint-Martin. Et par Louis-Claude de Saint-Martin, tout un courant ésotérique qui passe les frontières comme cela, d'une manière étonnante, et puis qui passe les siècles aussi, car ces gens ne se préoccupaient pas de l'évolution de la science.
On s'est demandé d'ailleurs si Fourier n'avait pas eu non seulement des relations étroites avec des maçons, mais si lui-même ne l'avait pas été. Il y a un document qu'on nous a sorti ici aux archives qui est assez intéressant, il émane de la Grande Loge de Metz.
En effet, et la Grande Loge de Metz a beaucoup d'admiration pour Fourier, comme lui-même sans doute en eut pendant un moment, seulement il critique très violemment les maçons, c'est difficile de penser qu'il en ait fait partie. On a dit que...
C'est un document qui date de quelle époque?
Celui-là date de 1833, donc presque à la fin de la vie de Fourier, des gens qui connaissaient tout son œuvre sans doute, ou presque tout, puisqu'il avait fait tout ce qu'il avait publié, et qu'il admire beaucoup, qui lui font beaucoup de compliments, qui lui disent qu'il faut étudier sa théorie, puisque seul il remettra la justice dans le monde, qui constituera le bien-être pour tout le monde, etc. Enfin, ce sont des gens qui n'introduisent aucune critique et qui semblent, au contraire, plein d'admiration. Quant à lui, il avait beaucoup de critiques contre les maçons, mais il pensait que s'ils avaient poursuivi toute leur influence et qu'ils aient créé une religion de la volupté, ils auraient pu régénérer le monde. Ça, il le disait dans la théorie des quatre mouvements. Il semble en effet qu'il ait eu des liens assez étroits avec eux, qu'il en ait fait partie à cause de ces critiques même qui se sont répandues à travers son œuvre. C'est peu probable. C'est peu probable aussi. Il n'y a pas de preuves dans les archives des maçons, d'une part, mais qu'il ait prononcer des conférences chez eux, pourquoi pas, ça c'est très possible. Que la théorie des quatre mouvements soit les minutes de ces conférences, c'est pas prouvé non plus, mais pas exclu. En tout cas, qu'il les ait connus certainement.
Plutôt que de ne trouver rue du Mail, rue Montmartre, dans ce quartier extrêmement bruyant aujourd'hui, qui est le quartier de la presse, qui est le quartier du commerce, nous sommes rentrés dans ce passage qui relie la rue Montmartre au Grand Boulevard et nous sommes tout près du 29 rue du Mail où Fourier a été employé de commerce à partir de 1826 dans le comptoir d'une maison de New York, Curtis and Lamb.
C'est ça. Alors, il les a quittés, on a dit qu'il les avait quittés en 1834-35 pour se consacrer entièrement à son œuvre. Ce n'est pas tout à fait exact en ce sens que Curtis and Lamb a décidé de supprimer son siège parisien et de le transférer à Marseille. Et assez curieusement, Fourier, le grand nomade, le grand voyageur, en ces années 30 où il vieillissait, n'avait plus du tout envie de quitter Paris, sauf pour des incursions à Besançon, à Bugey, pour voir sa famille et ses amis. Mais il avait envie de résider à Paris toujours pour la même raison, parce qu'il avait l'impression que ce n'est qu'à Paris que ses idées pouvaient rayonner.
Quelles sont exactement les activités de Fourier chez...
Curtis et Lam. Alors, il faisait la correspondance et il s'occupait des commis, ayant été lui-même commis voyageur de commerce pendant une partie de sa vie. Et vous savez qu'il a chaque fois donné toute satisfaction. Depuis son extrême jeunesse, quand pour la première fois il avait été emmené comme commis voyageur à travers la France, la Hollande, l'Allemagne, son employeur a dit à sa famille qu'il ne connaissait pas de jeune homme de meilleur caractère sur qui on puisse davantage compter et qu'il était enchanté de ses services. Donc, il satisfaisait ses employeurs alors que lui haïssait son emploi, ce qui est également l'un des paradoxes de Fourier.
À la fin de sa vie, Fourier est un homme pauvre.
Fourier n'a jamais été un homme riche. L'héritage lui est passé entre les mains et a coulé. Et très souvent, sa grande admiratrice byzantine, Clarisse Vigoureux, a été obligée d'intervenir pour l'empêcher d'être en trop mauvais état pécunier. Et il n'avait jamais assez d'argent pour financer un périodique même très modeste. Et il en trouvait même difficilement pour faire paraître ses œuvres, dont les éditeurs ne voulaient guère. Enfin, on ne se précipitait pas pour imprimer la théorie des quatre mouvements. De sorte que ce n'était pas un homme extrêmement pauvre. C'est un homme qui a employé un domestique. C'est un homme qui pouvait descendre dans des hôtels tout à fait décents. Mais c'était un homme modeste, nous dirons, qui ne pouvait se permettre aucun luxe alors qu'il adorait la bonne chère. Vous savez qu'il était très ami avec Brillat Savarin.
Avec lequel il a fait des voyages.
Avec lequel il a fait des voyages et chaque fois, ils essayaient
avec des étapes gastronomiques.
Ils essayaient de trouver les auberges ou la gastronomie, ou plus exactement la gastrosophie, la science du gaster, de l'estomac, était à l'honneur. Et vous savez que les repas du phalanstère fourriériste, des sanhédrins de la gastrosophie, étaient le point culminant et suprême de ce que nous appellerions aujourd'hui la convivialité, c'est-à-dire le bonheur d'être ensemble, le plaisir de la journée terminée et la joie de se retrouver et de s'aimer entre soi.
Dominique de Santi, vous avez souhaité rencontrer René Scherrer, qui a publié plusieurs essais sur Fourier, pour parler avec lui de l'éducation selon Fourier. Fourier démontre que, bien sûr, dans les systèmes civilisés, l'éducation, je cite, « fausse les développements du corps et de l'âme et les vicie par l'égoïsme et la duplicité et détourne chacun de sa vraie vocation ». Il oppose donc à ces systèmes pernicieux l'éducation harmonienne qui tend d'abord, dit-il, à faire éclore dès le plus jeune âge les vocations d'instinct. Alors, quelles sont les différences des deux systèmes ?
Eh bien, j'aimerais que René Scherrer nous explique comment les enfants communiquent les uns avec les autres. L'enfant un peu plus avancé en âge et en éducation faisant l'éducation de celui qui est un peu plus jeune, une espèce d'enchaînement d'éducation
Exactement.
Par l'enfant.
Exactement.
J'aimerais que vous nous expliquiez
ça. Du point de vue également, je me place un peu du point de vue historique, mais du point de vue historique également, pour comprendre exactement la position de Fourier, il serait beaucoup plus proche de ce qui, au début du 19e siècle, avait été l'enseignement mutuel. L'enseignement mutuel, c'est une idée très progressiste, d'ailleurs, qui a été progressivement abandonnée à partir des lois scolaires de Guizot et qui faisait que les enfants étaient en quelque sorte réciproquement entraînés les uns par les autres dans les classes les plus avancées, guidant ainsi les plus jeunes. Mais ce n'est en quelque sorte qu'une caricature, il en parle Fourier dans certains passages, qu'une caricature de ce que veut Fourier. Il y a chez lui un profond mutualisme. Cela part d'une idée en quelque sorte de bon sens, d'ailleurs Fourier s'appuie toujours sur le bon sens, bon sens, selon laquelle l'éducation des enfants, quoi qu'on fasse, se fera toujours par d'autres, et en particulier par les aînés. Pas les aînés très distants. Il y a une sorte d'entraînement qui fait que les enfants d'une classe d'âge plus âgés que les autres, les entraînent, deviennent leur objet d'admiration. Et c'est ainsi que par un certain nombre de sentiments à la fois d'admiration, de rivalité, les enfants plus jeunes arrivent à s'insérer dans des groupes qui sont sans doute formés d'enfants de leur âge, mais qui sont constamment en relation avec les groupes plus âgés. Il en donne un certain nombre de descriptions, d'ailleurs.
Il y a une espèce de chaîne.
C'est ça, il y a un enchaînement.
Entre l'enfant très petit et le grand adolescent qui les relie les uns aux autres.
Mais comment, il y a une continuité. Oui, mais dans cette chaîne, comment se fait le passage justement d'une série à l'autre? Il y a dans cet ensemble, dans ce système, il définit, je crois, quelque chose comme 8 classes d'âge différentes, 8 tribus. Oui. Alors, est-ce que ces tribus justement sont réparties en fonction des classes d'âge ou en fonction des niveaux, des maturités? Comment se fait le passage de l'une à l'autre?
Les tribus, ce sont des enfants qui sont d'un âge à peu près identique. C'est ainsi, par exemple, que ce qu'il appelle les hordes, les petites hordes, ou ce qu'il appelle les petites bandes, sont formées d'enfants d'âge précédant immédiatement la puberté, qu'il appelle, en utilisant, pour les détourner de leur sens, des noms qui sont ceux des écoliers, les gymnasiens, les lycéens. Ces enfants forment des groupes. Mais ces groupes, il ne faut jamais les penser comme étant totalement isolés. Ils se rassemblent parfois, ces petites hordes par exemple, qui sont les enfants turbulents, aimant, selon une des expressions de Fourier, la cochonnerie, la saleté, le danger, sont les groupes d'enfants qui sont consacrés aux tâches répugnantes pour des adultes, mais qui au contraire les exaltent eux-mêmes. Les petites bandes, ce sont les enfants au contraire dont le caractère présente plus d'affetterie, qui sont plus délicats, plus sensibles, en particulier les petites filles, mais il y a également des garçons, et qui, eux, sont consacrés à des activités comme la danse, la parure, l'opéra. Fourier, dans l'éducation phalanstérienne, décrit effectivement ces groupes comme étant isolés. C'est un besoin, en quelque sorte, analytique de l'exposition. Mais dans le fonctionnement général, il ne faut pas les comprendre comme étant isolés. Parce que, d'ailleurs, les enfants qui font partie des groupes ou des tribus se trouvent mêlés dans d'autres activités.
Mais il me semble que Fourier ne fait pas de distinction entre l'éducation spécifique aux filles et l'éducation spécifique aux garçons. Par exemple, dans les opéras, les divertissements, etc., les petits garçons sont admis aussi bien que les petites filles.
C'est exact. L'éducation de Fourier est une éducation mixte.
Exactement,
mais
ce qui était
il y a des proportions, c'est-à-dire que dans certaines activités, les filles, en fonction de leur caractère, l'emportent sur les garçons ou inversement. L'analyse, pour Fourier, ce n'est pas une analyse de caractère très détaillée qui s'appuie sur une expérimentation psychologique donnée, il s'appuie surtout sur un état de fait. Mais sans faire de différence de nature. Il n'y a pas de différence de nature fondamentale entre la fille et le garçon, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de rôle qui soit spécifiquement le rôle masculin ou le rôle féminin.
Oui, alors là, je crois que c'est une nouveauté énorme par rapport à Rousseau, car enfin il y a Émile et il y a Sophie, et Sophie est absolument modelée pour servir de compagne, c'est-à-dire de seconde, de maîtresse servante à Émile, tandis que chez Fourier, il me semble que filles et garçons participent aux mêmes tâches et aux mêmes distractions.
Ce qui est très nouveau également, c'est l'indépendance des enfants par rapport à la société des adultes et la rupture avec la cellule familiale.
C'est exact. C'est exact. Il y a une sorte, si l'on peut employer l'expression, d'autogestion des enfants dans la fraction de société partielle qu'ils constituent. Il ne faudrait pas comprendre cette autogestion comme étant non plus un isolement. Ils ont leur liberté pleine et entière, qui répond précisément à l'exercice de ce que Fourier appelle leurs attractions passionnelles. Le contrôle, en quelque sorte, est toujours un contrôle réciproque. Et étant donné la diversification des tâches, l'enfant trouve toujours à se placer pour la satisfaction de sa vanité.
Il y a des communes qui ont été créées sur le modèle un peu du phalanstère. Est-ce que ce système d'éducation a été éprouvé ?
Toujours les essais de constitution d'un phalanstère, y compris du vivant de Fourier, d'une ce que l'on a appelé une phalangette d'enfants, ont été des échecs. Ils ont été des échecs pour des raisons que Fourier a attribuées au fait que son système n'était appliqué de façon partielle simplement, et que pour voir son fonctionnement il fallait l'appliquer d'une façon complète. Je ne pense pas que Fourier ici puisse être considéré comme un théoricien d'une pratique quelconque. Je pense que il faut le prendre vraiment dans son sens fort d'une utopie d'éveil, d'une utopie directrice, empruntant à la réalité l'ensemble des éléments qui sont oubliés ou qui sont refoulés dans le système éducatif actuel ou dans le système social, et en montrant constamment quelles sont les possibilités qui pourraient être données. Mais ce n'est pas quelqu'un qui doit être jugé d'après une application quelconque.
Un homme, une ville, Charles Fourier à Paris avec Dominique de Santi, par Jean Montalbetti. Cette deuxième émission avait pour thème la révolution de l'attraction personnelle. Les lectures de Charles Fourier, extraites de la théorie des quatre mouvements et du témoignage de Xavier Marmier dans La France littéraire de 1832, ont été faites par Claude Rich. Prise de son en extérieur, Jean-Claude Aimé. Mixage, Bernard Charron et Jean-Louis Boissonnade. Réalisation Daniel Fontanarosa et André Mathieu.